Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, votre émission pour commenter l'actualité chaque jour du lundi au vendredi sur Africa Radio. Aujourd'hui, mardi, nous attendons vos commentaires sur ce sujet, la Mauritanie divisée après l'élection présidentielle. Le candidat du pouvoir, Oul Razwani, a été proclamé vainqueur avec 52% des suffrages. Cette proclamation intervient dans un contexte tendu après l'arrestation d'une centaine de personnes et la coupure des réseaux internet. Alors qu'en pensez-vous? Que faut-il retenir de cette élection? Pour en parler, nous serons en ligne dans quelques instants avec Eladji Fall, il est porte-parole du candidat Biram Da Abeid. Pour nous donner votre avis, participez à l'émission. Le numéro, c'est 33 1 55 07 58 00. 33 1 55 07 58 00. Avant de parler de la Mauritanie, je vous propose d'écouter quelques messages que vous nous avez laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Oui, bonjour. Je pense que la déclaration de M. Macron, il n'est pas, à critiquer. Au contraire, c'est à féliciter. Quand il dit que les Africains doivent prendre leurs responsabilités, je pense que ça, c'est tout à fait vrai. On a certains pays, on a des gouvernements ou des ministres qui ne prennent pas, qui ne connaissent pas, que ça veut dire leur responsabilité. Quand on a affaire à un ministre de la Santé qui laisse rentrer les médicaments périmés, qui donne l'autorisation de n'importe quelle personne qui ne sait ni le écrire avant les médicaments, ça, on ne peut pas dire que ce ministre, il connaît sa responsabilité. On ne peut pas dire que ce ministre, il prend sa responsabilité. Ou il connaît sa responsabilité. Lorsqu'on a un ministre de l'Éducation nationale, qui recrute des enseignants qui ne savent ni lire et écrire, mais en moyennant 10 millions de francs guinéens, je parle de Guinée-Conakry, en moyennant 10 millions de francs guinéens, on peut recruter les enseignants. Et c'est le cas de la Guinée. Lorsqu'on a un ministre de la sécurité routière ou sécurité tout court, qui laisse les véhicules en mauvais état, déjà pour quitter une gare voiture, il faut d'abord pousser, alors qu'elle doit faire 600 km, pousser pour que ça puisse partir. Et que ces véhicules, ils quittent à une ville à l'autre, qui fait 600 km avec le mauvais état de route. Les véhicules qui doivent prendre 15 personnes, très souvent on voit ces véhicules qui prennent 25 personnes, sans compter les surcharges sur le haut, sur le capot. On ne peut pas dire que ce ministre-là, il sait exactement quelle est sa responsabilité. C'est aux Africains de se réveiller.
Bonjour, auditrice, auditeur du JDA. C'est Touré. Aux Africains de prendre leurs responsabilités passe aussi par le respect du choix du peuple africain pendant les élections. Et d'arrêter de féliciter ou de soutenir les présidents qui tripatouillent les élections, les résultats, qui tripatouillent les élections dans leur pays. Et en fin de compte, ils sont impopulaires. Personne ne veut pas les soutenir parce qu'ils n'ont pas été élus par le peuple. Ils sont très mal élus ou même pas élus. Et en fin de compte, ils n'ont rien à dire au peuple parce qu'ils ne sont pas soutenus en réalité par la base, par la population. Dans tout ce qu'ils entreprennent, à la fin, ils se trouvent coincés. Ça, on voit ça un peu partout en Afrique, c'est en Afrique francophone. Merci Africa Radio. Bonne journée.
Oui, enfin madame, je me permets de parler chez Africa numéro 1. À l'intention des autorités ivoiriennes qui sont candidats à l'élection présidentielle, c'est bizarre, mais ils sont candidats, mais on n'a aucun programme. Il y a 1 million d'Ivoiriens qui sont à la retraite, qui n'ont même pas 150 euros à la fin du mois. Mais ça n'inquiète pas nos autorités ivoiriennes. L'État gaspille 200 à 500 millions pour payer certains politiciens. Pourquoi ne pas ramener cette manne à 100 000 francs? Ça fait partie d'un programme social. Il y a beaucoup de choses à faire en Côte d'Ivoire. Ils passent leur temps à attaquer le président Alassane Ouattara, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela. Il propose quoi en retour? On attend ce qu'il propose. Ça ne sert à rien de dire non, il mettrait de ceci, il mettrait cela, ça ne sert à rien. Franchement, j'attends le programme de politiciens ivoiriens pour faire mon choix. Bonne journée, au revoir.
Ma très chère Atman, bonjour. Nous avons une drôle de position en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a accepté la requête de la Cour africaine des droits de l'homme concernant la recomposition de la CEI. Donc, il y a un organe qui a été formé, présidé par le Premier ministre, pour recevoir tous les opposants, pour pouvoir avoir un consensus par rapport à la CEI. Mais bizarrement, les opposants ne viennent pas à la table de négociation. Mais cela met le pays en retard. Moi, je ne sais pas quelles sont les motivations de cette opposition en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une opposition constructive. La vérité est que notre opposition en Côte d'Ivoire est toujours dans une logique d'insurrection. Mais moi, je voudrais leur dire que l'insurrection ne passera pas. Parce que les Ivoiriens, dans leur grand ensemble, veulent la paix et le développement et pour notre pays. Et moi, j'ai dit au président Alassane Ouattara, si l'opposition ne veut pas venir à la table des négociations, ben, qu'ils prennent des gens compétents pour former la CEI. Et nous allons partir aux élections. Voilà. Idriss, bonne journée.
Bonjour, c'est M. Sek Alassane. Je voulais réagir au niveau de la Mauritanie. Et j'ai écouté tout à l'heure un certain Mokhtar. Il a raconté des coloris sur la Mauritanie. Peut-être qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe en Mauritanie. À ce moment, ils disent que le pays a besoin de sécurité. Toute l'armée en train d'emprisonner les Mauritaniens. Et vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Les gens, ils ne disent pas la vérité. Et les réseaux sociaux sont coupés. On appelle toutes les familles tous les jours. Ce qui se passe en Mauritanie, c'est, à ce moment, c'est vraiment incroyable. Ils sont en train d'emprisonner toutes les gens qui manifestent. Et ils obligent des gens à mentir, à dire qu'ils sont d'origine malienne ou sénégalais, ceux qui manifestent. Franchement, c'est abominable ce qui se passe en Mauritanie. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Et l'élection, c'est un coup d'État électoral, moi je dis. C'est un coup d'État électoral. Ghazouani n'a jamais gagné. Il a perdu. Il est au troisième. Le vrai résultat, il est au troisième position. Donc c'est tout ce que je voulais dire à Africa numéro 1. Merci et au revoir.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Petite séance de rattrapage des messages que vous avez laissés hier sur WhatsApp au sujet du Sahel. On a un message notamment de Doudou qui nous disait pourquoi les bases militaires ont-elles besoin d'occuper le territoire africain, s'il s'agit vraiment d'aider l'Afrique. Il parle des bases militaires françaises, hein, il pouvait former l'armée, il a doté de toutes les armes nécessaires. Et puis on avait un autre message que je n'avais pas pu lire de Blaise, hein, qui dit la plupart des États francophones ont acquis l'indépendance partielle, rien de nouveau sous le soleil, que M. Macron se rappelle de la conférence de Berlin, de la guerre de M. Sarkozy en Libye. Eh bien, pour cette nouvelle édition du Journal des Auditeurs, on reste à peu près dans le Sahel, puisqu'on va parler de la Mauritanie, lendemain d'élection en Mauritanie. Que faut-il retenir de cette élection? Nous en parlons avec El Hadji Fall, porte-parole du candidat Biram Da Abeid. El Hadji Fall, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Merci d'être avec nous. Alors, les neuf sages du Conseil constitutionnel ont donc validé hier la victoire de Mohamed Ould Ghazouani avec 52,01% des voix. C'est à peu près le même score. C'est exactement le même score d'ailleurs que le résultat déclaré par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Tout d'abord, comment réagissez-vous au rejet par le Conseil constitutionnel des recours déposés?
C'est avec grand regret qu'on a appris ça. On a espéré, notre leader Biram Da Abeid avait souhaité vivement, en tout cas il a espéré que l'administration mauritanienne allait prendre cette occasion pour se ressaisir eu égard à l'attitude du candidat du pouvoir sortant qui est Ghazouani, ayant déclaré sa victoire avant même que la propre CENI, que lui et son système ont mis en place, n'ayant pas confiance à sa CENI, à la propre CENI, et qu'ils ont anticipé la déclaration de leur victoire. En tout cas, de la soi-disant victoire, on aurait souhaité, effectivement, que les institutions mauritaniennes se distinguent légèrement de cette position qu'a eue ce candidat sortant. Mmh. Et en plus, il a fait sa déclaration accompagnée du président sortant. C'est vraiment pour dire qu'ils ont accaparé les institutions mauritaniennes et ne permettant pas les institutions et l'administration mauritanienne de faire son devoir. On a espéré, et le président Biram l'a clairement dit, en dehors des présidents de conférences de presse, il invite la CENI à ce qu'elle ait un acte de noble pour la Mauritanie. Quand on voit comment effectivement la population mauritanienne s'est mobilisée, et surtout quand on voit comment la population mauritanienne a participé aux élections d'une manière calme et dont tous les observateurs l'ont observé, y compris le pouvoir qui est en Mauritanie a observé, a reconnu que les élections se sont passées dans un camp exemplaire. Même les chanceliers occidentales qui ont malheureusement reconnu, avant même d'attendre la déclaration de la Cour constitutionnelle que le candidat Razouane a gagné, même ces chancelleries qui ont quand même fauté diplomatiquement, même elles ont reconnu que ces élections se sont passées dans le camp. On aurait aimé, on aurait souhaité et on continue encore à l'espérer, mais malheureusement ils ont fait la déclaration hier, qu'au moins on nous donne l'occasion de construire un pays parce que réellement, là, les Mauritaniens se sont mobilisés cette fois-ci. Et nous, c'était effectivement que la Cour constitutionnelle, au moins qu'elle tienne compte de ce qu'on lui a soumis, c'est-à-dire des dossiers sur lesquels il y a eu des éléments de preuves flagrants.
Justement, quel type de preuves, quel type de fraude vous avez dénoncé ? Est-ce que vous avez carrément demandé l'annulation de l'élection, hein, je crois ?
On a demandé l'annulation de l'élection sous des preuves palpables, c'est-à-dire que nous n'avons demandé que l'application de nos propres textes. Les textes, même si nous, les candidats de l'opposition, nous avions regretté que la CENI, ou en tout cas que la CENI n'a pas été composée des représentants de l'opposition, nous sommes allés quand même aux élections. C'est vraiment pour dire à quel point nous chérissons nous tous notre pays. Mais nous aurions souhaité effectivement que les textes que ce système a mis en place, qu'ils respectent au moins ces textes, même s'ils ne sont pas nos faveur. Et dans les textes qui ont été décrits pour la CENI, ils ont dit qu'effectivement, s'il y a un bourrage de urnes, s'il peut annuler les élections. S'il y a eu des représentants de l'un des candidats, qui que soit, s'il y a une faute électorale, s'il y a des incohérences entre les bulletins exprimés et les bulletins comptés, ben, c'est une faute d'annulation. Et on a fourni plus de 455 preuves, plus de 450 bureaux dans lesquels il y a eu des preuves de ce type d'ajustement. Mm. Et ce sont des bureaux dont la CENI elle-même a utilisé pour comptabiliser la victoire du candidat du pouvoir qui est Razouane. Et nous, on a souhaité, avec les propres preuves qu'elle a utilisées pour valider son élection, qu'on a mis à son service, qu'elle utilise ses moyens pour au moins se ressaisir, parce qu'effectivement, elle aurait pu le faire. Mais malheureusement, ils n'ont pas été à la hauteur. Et là, ils n'ont pas été à la hauteur pour tous les Mauritaniens. Parce que dans ces élections, on a bien vu que l'opposition n'a pas été une communauté contre l'autre. L'opposition a été une communauté nationale, multiculturelle, qui s'est présentée. Nous avons les candidats, notre propre candidat, Biram Daoud Abed, qui est venu second, selon cette CENI. Nous avons Iwoul Bobakar, qui est arrivé troisième, selon cette même CENI. Iwoul Bobakar est un mort. Biram est un Hapani. Nous avons Mouloud. Nous avons Kan. Qui sont arrivés, car étant polar, vous le mauvais étant mort. C'est vraiment pour dire que dans cette opposition, il y a vraiment toute la communauté mauritanienne. On aurait vraiment souhaité que cette fois-ci, on prenne cette occasion pour reconstruire notre pays, parce que vraiment, on en a besoin. Avec
On va revenir à la Fall, hein, sur cette question de diversité, de vivre ensemble, qui était aussi au cœur de l'élection. Encore un mot avant de donner la parole aux auditeurs. Hein, vous avez évoqué les chancelleries occidentales qui ont fauté. La France.
Et sous-régionale également.
Et sous-régionale. Alors, on va se concentrer sur la France qui a rapidement, en tout cas, sur cette chancellerie, on va dire en général, effectivement, occidentale et sous-régionale, qui ont rapidement, avant d'attendre la proclamation des résultats officiels, félicité l'élection de la victoire de Oul Razouani, qui a été ministre de la Défense de l'ancien président, on le rappelle. Comment vous expliquez cette précipitation à souligner cette victoire, à féliciter le candidat du pouvoir ?
Nous ne la comprenons toujours pas, mais vraiment on ne la comprend encore moins aujourd'hui.
Est-ce que des intérêts sécuritaires, c'est la question du Sahel aussi, on sait le rôle de la Mauritanie aussi dans le Sahel, est-ce que ça peut expliquer cette précipitation ?
C'est la pire des raisons, c'est la pire des raisons qu'ils ont utilisées. Parce que l'insécurité, s'ils estiment que la Mauritanie aujourd'hui est un pilier pour la sécurité sous-régionale, ben, avant qu'elle ne soit pour les autres pays avoisinants, il y a encore un pays qui est à 5000 km, il faut que déjà qu'elle ait sa propre sécurité dans son propre territoire. Mmh. Aujourd'hui, nous avons exactement toutes les germes pour créer exactement ce qu'il faut pour exposer le pays. Et lorsqu'on expose ce pays, malheureusement, c'est une communauté multiculturelle. Et on sait comment ça finit. Et cette frustration, effectivement, c'est ce que l'Occident, et malheureusement la France qui est dans ces contrées, elle va récolter ce qu'elle est en train d'avoir aujourd'hui, c'est-à-dire une immigration massive. Ça veut dire que des actes anti-françaises. Mm. Nous, aujourd'hui, Mauritaniens, nous sommes fiers d'avoir été d'avoir une langue française étant une langue nationale, même si notre système actuel l'a enlevé. Mais nous avons des liens qui nous lient avec la France. Nous parlons français.
nous avons des échanges avec la France. Ce ne sont pas des échanges de pays à pays, ce sont des échanges d'individu à individu. Culturellement, nous sommes liés. Et nous, nous souhaitons effectivement qu'à la France, parce qu'effectivement, elle a une prépondérance, en tout cas dans notre sous-région, on aurait aimé qu'elle prenne de la hauteur. Parce que c'est ça qui dit, c'est ça qui vraiment qui donne la grandeur de la France. Et malheureusement, et c'est illustré ces dernières temps sur d'autres dossiers. Mais nous, nous parlons donc d'autres propres dossiers, c'est-à-dire la Mauritanie. Notre leader Bilal Daoud Ahmed a été emprisonné pendant 6 mois, pendant 5 mois. Qu'est-ce que la France a dit, malheureusement, le Quai d'Orsay? Ils ont estimé que c'était un problème de droit commun. Alors qu'un pays pilier de l'Europe qui est l'Allemagne a dit que même si c'était un problème de droit commun, il faut qu'on trouve une sortie en arabe. C'est ça qu'on appelle une diplomatie. C'est une diplomatie, il ne faut pas venir envenimer des problèmes déjà existants. Mmh. Pour nous, les sociétés, effectivement, la France qui a vraiment une influence, non seulement en Mauritanie, mais dans toute la sous-région. Parce que l'attitude qu'elle a eue vis-à-vis de la Mauritanie, c'est ce que tous les Africains vont voir, et c'est ça qu'ils vont dénoncer auprès de la France. Et nous, on ne veut pas créer cette haine envers la France. Nous sommes fiers d'avoir ces liens. Mais on veut effectivement que le pays que nous chérissons, qui est la France, nous le rende également. Mmh. Et on veut qu'elle nous le rende.
C'est très clair.
Et
merci.
Malheureusement, c'est d'ailleurs, c'est pour aller exactement sur ce sujet, c'est dans ce cadre qu'on a un collectif de femmes mauritaniennes qui ont décidé de faire un sitting demain devant l'Assemblée nationale pour protester contre l'attitude de la France.
À Paris, en France. C'est vraiment, hein, c'est ça.
À Paris, exactement, demain à 11h. Parce que c'est vraiment ce qui indigne aujourd'hui les Mauritaniens. Mmh. Nous sommes un certain nombre de Mauritaniens qui vivons. Et nous vivons bien en France. Et nous sommes fiers de cela. Mais on aurait voulu aussi au moins que la France, qui voit les injustices que nous nous suivons en Mauritanie, au moins qu'elle prenne un minimum de hauteur. Mmh. Malheureusement, elle n'a pas monté cet exemple.
Merci, Ladjifal, pour ces réponses. On va donner la parole aux auditeurs dans quelques instants. Je rappelle le numéro 33 1 55 07 58 00. 33 1 55 07 58 00. Sur WhatsApp, William nous dit en Mauritanie, c'est fini pour l'opposition et pour le peuple. La France avait déjà validé les résultats de ce général à la retraite dès qu'elle avait salué sa victoire en disant que tout s'est bien passé dans un cadre démocratique. Après, il y a eu bien évidemment d'autres pays hein, qui ont dit oui à ces résultats, malheureusement, pour l'opposition et le peuple. Voilà pour le message de William sur WhatsApp. On va se diriger à Conakry, retrouver Tierno. Tierno, bonjour.
Oui, bonjour à Stéphanie et bonjour à l'ensemble des amis auditeurs et auditrices d'Africa Radio.
Bonjour Tierno, bienvenue dans le JDA. Vous dites hein, finalement la validation de cette élection condamne l'alternance politique, même si on le rappelle, hein, le président sortant ne s'est pas représenté, Mohamed Ould Abdelaziz.
Oui, tout à fait. Moi, je pense que les opposants doivent accepter les décisions de la plus haute institution judiciaire de leur pays. Parce que il faut pas toujours contester les élections d'Algérie. Une fois que vous avez fait des recours, le recours a été rejeté par la justice, il faut mettre un terme à des contestations et tourner la page et aller vers l'avant. Parce que c'est ce qui est plus important. C'était le cas en RDC, il y a eu toujours des contestations, mais c'est le problème actuel ici en Afrique. Chaque fois qu'il y a des élections, il y a des fautes. Tout le monde le sait. Mais une fois que, moi je pense qu'au nom de la paix et la critique sociale, une fois que la plus haute institution judiciaire de notre pays proclame les résultats définitifs, il faut que l'opposition accepte ces résultats. C'est tout à fait normal, c'est ce qui l'opposant guinéen, c'est Ludalen Diallo, a montré un bel exemple à l'opposition africaine en 2010. En premier tour, il avait obtenu plus de 44 voix, mais en second tour, il a perdu les élections.
Il semble qu'il regrette un peu, mon cher Tierno. Hein.
Oui, donc il a accepté les résultats au nom de la paix et la culture sociale. Mmh. Donc en Mauritanie, vu le positionnement de ce pays du Sahel, donc c'est un pays qui a un gros risque, donc il y a des risques. Il ne faut pas que les opposants contestent les résultats sortis, le résultat qui a été proclamé par le Conseil constitutionnel d'Algérie. Il faut qu'ils peuvent aller jusqu'à la cour de la CEDEAO ou bien dans les autres institutions internationales, mais il faut qu'ils acceptent au niveau national le résultat qui a été proclamé par
le Conseil.
Le résultat, c'est mon point de vue parce que c'est quelque chose qui il va permettre le pays de bouger. Une fois que vous acceptez les décisions de la justice, ça vous permet d'évoluer. J'ai d'ailleurs mon idole au sein de l'opposition, qui est un prix Nobel de la paix, qui est Brahim Abed, le président du parti Iran Mauritanie. C'est un homme de la paix. Elle doit guider l'opposition dans ce sens pour pas qu'on nous permette certains individus qui sèment la terre au Sahel de se mêler dans les affaires.
On comprend bien, Tierno, votre point de vue. Finalement, voilà, il ne faut pas contester dans la rue. La Mauritanie est dans une zone fragile. Il faut accepter les résultats. Merci, Tierno. Je demanderai à Jeff une réaction dans quelques instants. Monsieur Camara, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, monsieur Camara. Vous dites aussi, on doit accepter, les Mauritaniens, en tout cas l'opposition, doit accepter le résultat des élections.
Moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Moi, l'intérêt de la Mauritanie passe au-dessus de tout le monde. Voilà, l'intérêt de l'individu, moi, ça ne m'intéresse pas. Birahim était un candidat comme tous les candidats. Il a participé à une élection qui a été passée. Ils ont accepté d'aller aux élections avec toutes les conditions qu'on connaît. Si la CENI est libre ou ils ne sont pas libres, s'ils sont indépendants ou non pas indépendants, ils ont accepté de partir. Donc l'opposition, ils n'ont pas si faire l'affaire parce qu'ils n'ont pas si se réunir pour avoir un seul opposant. Quand Hamidou Baba est parti tout seul, l'autre là, comment on l'appelle, Birahim Da est parti tout seul. L'erreur que Birahim a fait dès le début, c'est de partir faire l'alliance avec Tawassoul. Tawassoul, c'est un parti dangereux. Parti islamiste, il est dangereux. C'est pour cela qu'il a perdu l'ensemble de ses électorats. En deuxièmement, c'est-à-dire ce Brahim-là, vraiment, il ne m'inspire pas parce qu'il n'a pas la carrière d'un chef d'État. Parce qu'il a beaucoup de discours qui véhiculent à la haine. Mauritanie, on a d'autres problèmes.
On a reproché à Birahim Da Abeid aussi de reprendre parfois à son compte les discours contre les négro-mauritaniens, c'est ça?
Non.
Vous avez
vu.
Qu'est-ce que vous dites alors qu'il a des discours qui appellent parfois à la haine?
Oui, je vais vous dire quelque chose. Dans moi, je suis soninké de Mauritanie. Ma mère est Peul, mon père est Soninké. C'est-à-dire dans ma communauté, je ne veux pas dire que tout est rose à Mauritanie, dans ma communauté, les Soninké, c'est-à-dire depuis que Birahim est venu, c'est-à-dire pour être leader, je ne sais pas quoi que ce soit, il y a eu beaucoup de déchirures dans ma communauté, moi, à cause de lui.
Contre l'esclavagisme, à cause de sa lutte contre l'esclavagisme, c'est ça?
Esclavagisme, c'est-à-dire beaucoup d'autres choses.
Pourquoi les gens se sont déchirés au sein de votre communauté, M. Camara?
Je ne sais pas, parce qu'ils disent qu'il y a l'esclavage dans la communauté Peul, il y a l'esclavage dans la communauté. Nous, on a. C'est-à-dire, il n'est pas. En grosso modo, il n'a pas de programme, il n'a pas de carrière, c'est-à-dire d'être un président. Parce qu'un président, il faut.
Bon, vous n'aimez pas Birahim Da Abeid, si j'ai bien compris, M. Camara.
Non, c'est pas parce que je ne l'aime pas.
Oui, non, mais.
C'est pas parce que je ne l'aime pas, c'est parce qu'il a des discours qui véhiculent à la haine. Moi, en troisième position, la sécurité. La sécurité, on donne le pays à celui qui connaît. C'est-à-dire la sécurité aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, avec le terrorisme, on ne peut pas prendre, c'est-à-dire à magistrature, c'est-à-dire donner ça à quelqu'un qui n'a jamais, c'est-à-dire...
Donc pour vous, êtes favorable que ce soit les militaires qui gouvernent, vu la situation. Monsieur Camara, il y avait énormément de choses dans ce que vous venez de dire, une chose aussi intéressante, qui ont trait aussi à la particularité, j'allais dire, mauritanienne. On va demander à la Djifal de répondre. Alors je vais essayer de reprendre dans l'ordre. C'est vrai,
je pense avoir retenu ce que Moussa Tchouna a dit.
Il y avait une première question sur l'unification de l'opposition, effectivement, pourquoi Birahim Da Abeid n'a pas rejoint la coalition, par exemple, Vivre Ensemble d'Hamidou Babacan. Il y avait une question sur Tawassoul, le parti islamiste, et enfin sur les propos, effectivement, de la lutte entre les esclavagistes qui a déchiré la communauté.
Alors, je commencerai déjà par une première chose concernant l'exemple qu'il a pris, qui est la Guinée, qui est un pays que je connais particulièrement, parce que j'y vis, après, j'ai fait les
vagues. C'est le premier auditeur qui dit ça, Tierno, tout à l'heure. Voilà.
Tout à fait, voilà. Je suis vraiment d'avis, comme lui, effectivement, que un homme d'État doit savoir mettre en priorité la paix dans son pays. Ne serait-ce que sur cet exemple. Biram Daoul Abeid a montré exactement ce qu'il fallait. Il a dit exactement ce qu'il fallait. Lorsque
d'ailleurs, je précise qu'il n'a pas eu le prix Nobel, hein, mais plutôt le prix des droits de l'homme de l'ONU en 2013.
Il a eu le prix des droits de l'homme en 2013, effectivement, qui est décerné tous les 5 ans, et notamment qui a été décerné à Nelson Mandela, Martin Luther King. C'est dire à quel point la communauté internationale lui accorde une primeur sur sa façon de lutter, sa lutte pacifique. Mais si les institutions internationales l'ont primé, c'est bien d'abord que la communauté mauritanienne l'a d'abord reconnu, évidemment. Donc, la paix, je pense que Biram Daoul Abeid est un homme de paix. On n'accorde pas des dizaines de prix à un individu et on ne peut pas dire que toutes les institutions se sont entendues pour trouver un monstre et puis lui accorder des prix. Bon. Si effectivement Seydou Dalein Diallo avait reconnu sa défaite, et je salue son attitude, mais je salue aussi l'attitude d'Alpha Condé. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, Seydou Dalein Diallo a un statut de chef de file de l'opposition. Je ne rentre pas dans les détails parce que la Guinée est un pays
oui, particulier. Et puis, il nous reste moins de 5 minutes d'émission à la Djifal et alors, il y a de nombreuses questions encore. Allez-y.
Alors, ne serait-ce que dans cette attitude, c'est pour dire que Biram Daoul Abeid est exactement dans la même attitude. C'est un homme de paix et c'est ce qu'il a demandé le lendemain des élections, lorsque les gens sont mis dans la rue. Il a demandé, écoutez, on a émis un recours, nous attendons le Conseil constitutionnel.
Mais il n'y aura pas de contestation dans la rue par la suite à la Djifal.
A priori. Je ne peux pas le dire, d'accord. Excusez-moi. Je viens de dire exactement que Biram Daoul Abeid est un homme de paix. Je ne peux pas dire exactement l'inverse.
Oui, oui. Non, mais c'était juste pour passer à l'aspect suivant. En revenant peut-être sur la difficile union de l'opposition et le fait que voilà, plusieurs candidats de l'opposition soient partis.
Les gens se sont peut-être éparpillés au premier tour parce qu'effectivement, chacun a croyé à son projet. Nous, les premiers, Biram Daoul Abeid avait déclaré sa candidature depuis décembre 2016. Donc, il a continué dans sa lignée. Nous avons négocié avec l'opposition. Et pas plus tard que le mois de janvier 2019, nous avons essayé de trouver un programme commun, et faire une campagne commune. Mais après, ce sont des divergences qui arrivent dans n'importe quelle opposition. Et la Mauritanie n'est pas exceptionnelle sur ce plan. Et toutes les grandes démocraties et le font également. Donc, on ne peut pas nous reprocher ce que d'autres font. Et puis, de bonne guerre en même temps. Ce sont des politiciens. Chacun estime que sa personnalité est plus importante. Soit. C'est fait. Mais nous, en tout cas, nous avons estimé que notre candidat Biram Daoul Abeid est légitime. Et la Mauritanie, je pense que les citoyens mauritaniens nous ont rendu grâce par rapport à la confiance que lui avait sur sa personne pour gérer le pays. On est quand même arrivé deuxième selon cette CENI. Mais tout le monde, avec toutes les fautes dont on a parlé précédemment, on prouve effectivement que nous avons vraiment battu campagne. Et si on prend l'opposition dans sa globalité, s'il n'y avait pas ces fraudes qui étaient faites, au moins on aurait pu aller au deuxième tour. Malheureusement, on n'y est pas.
Ensuite, sur ces discours, voilà, vous avez entendu M. Camara, vous maîtrisez sûrement le dossier mieux que moi, qui disait, voilà, finalement, la lutte contre l'esclavage crée aussi des tensions.
Je le comprends et je vais le dire de la sorte. À chaque fois que Biram Daoul Abeid dénonce une situation, il a commencé d'abord par dénoncer l'esclavage des Maures noirs, des Blancs contre les Maures noirs et Haratines. On nous a reproché de créer une haine entre cette communauté, les Bédanes et les Haratines. Lorsque Biram Daoul Abeid a commencé à dénoncer les exactions qui ont été commises contre la communauté Peul, notamment le 28 novembre, les Maures nous ont reproché que Biram Daoul Abeid est manipulé par les Poulards. Lorsque nous avons dénoncé l'esclavage dans la communauté sonique, donc ici Camara, c'est-à-dire le Gambanaho, Biram Daoul Abeid a dit qu'on ne peut pas vivre, dans une communauté et dire que nous sommes de caste inférieure ou supérieure, et jusqu'à mettre ces différences au moment où les gens sont enterrés, c'est-à-dire après la mort, on met des cimetières de nobles et des cimetières d'esclaves. Et c'est ce qu'il a dénoncé. Mais il a dénoncé dans toutes les communautés, et ouais. C'est d'ailleurs en ce sens qu'en fait qu'il a créé une gêne et dans toutes les communautés. Mais c'est ça en vérité un dirigeant. Un dirigeant qui dénonce les injustices partout où elles sont. Et c'est ce qu'il fait. Et naturellement, ceux qui ont les faveurs d'une situation seront gênés. C'est naturel. Mais en même temps qu'il dit ça, il ne dit pas non, c'est vous contre les autres. Il dit je dénonce pour que nous trouvions une solution. Il veut une solution, mais pour trouver une solution, il faut d'abord dénoncer une situation. C'est en la dénonçant qu'effectivement, on cherche une solution. Mmh. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Il l'a fait pour les Harafis, les Poulards, les Soninkés et les Mouros. Et regardez qu'il y a dans notre organisation. Excusez-moi pour le petit. Dans notre organisation, vous avez des Soninkés. Regardez dans nos cadres, notre directeur de campagne est un Soninké. Mmh. Moi-même, je suis Harafine.
Alors justement,
nous sommes le parti de savoir qui sont des Maures. On a toutes les communautés mauritaniennes. On ne peut pas nous reprocher vraiment. Et je pense que c'est vraiment ça qui gêne un peu certains dirigeants ou en tout cas certaines parties de comités, c'est que
Nous reflétons la Mauritanie aujourd'hui. Et ça, c'est Biram, le seul aujourd'hui qui a réussi à le faire. Et malheureusement, celui qui est devant, ben, c'est toujours lui qu'on attaque.
Il reste une minute, El Hadji Fall. Il y a eu des manifestations la semaine dernière. Plusieurs centaines d'étrangers, entre guillemets, hein, ont par ailleurs été arrêtés. Le ministre de l'Intérieur a dénoncé justement une main étrangère derrière ces événements. Qui sont les étrangers qui veulent du mal à la Mauritanie?
C'est vraiment ce qu'il y a de pire comme action que ce système a fait. C'est vraiment la pire des actions qu'ils
ont faites. Est-ce qu'on est bien d'accord, El Hadji Fall, que le gouvernement a qualifié d'étrangers des gens qui sont mauritaniens?
Ce ne sont que des Mauritaniens de souche. On les a attrapés devant des sièges de campagne. Ce sont des Mauritaniens, ce sont des Poulas, ce sont des Soninkés, ce sont des Wolofs, ce sont des Bambara. Effectivement, on prend des hommes de couleur noire pour effectivement, parce que c'est plus facile d'indexer des Sénégalais, des Maliens, parce qu'effectivement, on a un passif avec le Sénégal. Et pourquoi on n'a pas dit que c'était des Maures? Mais vous savez, c'est ça en fait, vraiment l'indignité de ce régime. C'est qu'il veut casser cette dynamique que nous, et aujourd'hui, quand je dis nous, je ne cite même plus que Biram, je cite l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition a accepté et consomme aujourd'hui que nous devons vivre ensemble. Tout le monde accepte que nous devons vivre ensemble. Mais parce que ce système, avec les quelques centaines de généraux et d'hommes d'affaires qui veulent garder la mainmise de ce pays, c'est eux qui ne veulent pas perdre les avantages qu'ils ont. Et malheureusement, pour ne pas perdre les avantages qu'ils ont, ils ne peuvent que nous diviser. Nous le refusons. Nous le refusons intégralement.
Merci.
On aime notre pays, on veut vivre ensemble. Tous ensemble.
Merci beaucoup, El Hadji Fall, d'avoir été notre invité.
Merci à vous de m'avoir invité aussi.
C'était un
merci à mes compatriotes et puis mon ami le Guinéen.
Merci, El Hadji Fall. Je vous souhaite une bonne journée. Je rappelle que vous êtes porte-parole du candidat Biram Dahabed. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat sur le répondeur d'Africa Radio au 33 1 55 07 58 05. En attendant de vous retrouver demain, prenez soin de vous à l'écoute d'Africa Radio. À demain.